Dieu qui est mort. C'est le moteur pour l'activité des croyants. Nous travaillons, nous combattons, dit Paul à Timothée, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Nous travaillons, nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Nous avons un Christ vivant. Je vous l'ai dit hier, la différence qu'il y a entre le christianisme et les religions, c'est que dans les religions, il y a des fondateurs, mais ils sont tous morts. Et on peut visiter leur tombeau. Pour Jésus-Christ, le tombeau est vide, Jésus est ressuscité. Oui, il peut dire en Apocalypse 1, « Je suis le premier, le dernier, le vivant, et j'ai été mort, certes, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux ajoutera, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. » Nous avons une parole vivante qui est appelée dans l'Écriture la vivante et permanente parole de Dieu. La parole de vie, Philippiens 2, la vivante et opérante parole de Dieu. Une parole vivante. Vous voyez sur la petite photo, les animaux sortent parce qu'ils se trouvent un peu en cage dans ce cadre. C'est une image pour montrer que c'est une parole vivante et non pas un livre mort. Nous avons aussi l'esprit qui s'appelle l'esprit de vie. Vous êtes, vous l'Église de Corinthe dans le contexte, mais on va contextualiser, vous êtes, vous Église de Tonnerre, la lettre de Christ, écrite non avec de l'encre, mais par l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair du cœur. Galates 6, 8. Celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et enfin, hors du contexte, en Apocalypse 11, nous savons qu'il y a deux témoins qui sont mis à mort, et après les trois jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en lui. Nous avons un esprit qui est appelé l'esprit de vie. Mais nous avons aussi un équipement pour faire notre travail. Jésus a donné, c'est Éphésiens 4, les uns comme apôtres, des envoyés, les autres comme prophètes, prophètes porte-parole de Dieu, les autres comme évangélistes, porteurs de la bonne nouvelle, les autres comme pasteurs et docteurs, c'est ceux qui soignent et qui enseigne le troupeau. Tout cela, c'est pour quoi faire? Vous croyez que c'est pour rien? Mais non, regardez l'objectif. En vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Et jusqu'à quand on les a? Eh bien, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature, de la plénitude du Christ. Vous savez, Dieu ne nous a jamais rien demandé sans nous en donner, sans nous donner les moyens d'y parvenir. C'est devant nous, un équipement performant. Une cuirasse à toute épreuve. Éphésiens 6, et je lis simplement la fin, c'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin qu'au mauvais jour vous puissiez résister, et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Et encore, j'ai appelé ça des cadeaux à profusion. Les dons de grâce de Dieu, des dons gratuits de Dieu. Il y a diversité de dons de grâce, mais le même esprit. Il y a diversité de services, et le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous, et à chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue de l'utilité. Alors, si maintenant je vous demande, quelle est la manifestation de l'esprit que vous avez reçue en vue de l'utilité et de l'encouragement de l'Assemblée locale? Et pourtant, soit la parole se trompe en disant à chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue de l'utilité, soit la parole se trompe, soit vous vous trompez. Il n'y a pas d'autre alternative. Nous sommes engagés dans la vie de l'Église. Nous avons tous quelque chose. Avez-vous remarqué comment dans l'Écriture, dans de nombreux exemples, Dieu se sert toujours de ce que l'homme a ou de ce que l'homme est. C'est comme ça. Il dit à Moïse, qu'as-tu en ta main? Il dit, un bâton. Et si on avait peut-être de nos jours, qu'est-ce que tu as dans la main? J'ai mon téléphone. Ben, on va se... Occupe-toi avec ton téléphone. Mais bien. Il se sert toujours de cela. Quand Élie arrive chez la veuve de Sarepta, qu'est-ce qu'elle avait? Un peu de farine. Quand Élisée lui demande un peu d'huile. Et chaque fois, Dieu va se servir de ce qu'on a. Ce peu, ça sert presque à rien. Mais dans les mains de Dieu, c'est la multiplication. Et celui qui donne tout, eh bien, reçoit tout en abondance. Vous savez, la veuve avec les deux pites. La veuve pauvre avec les deux pites. Ça m'a beaucoup parlé parce que j'étais en Israël pour mes 60 ans. Mes enfants avaient payé le voyage et là, j'étais à Siloé. Et à Siloé, c'était des Arméniens, c'était pas des Juifs. Là, mais ici, ils se débrouillent bien en affaires. Eux, ils vendaient des pites, mais des vrais, hein, des vrais. Donc, il y a tout plein de fouilles. Et les pites, ce sont des... En grec aussi, il y a l'étymologie de polluant. Tellement fin. Et donc, j'ai acheté ces deux petites pites pour 20 euros, je crois. C'était un peu cher pour les petits bouts de... Mais écoutez, au niveau symbolique, ça valait quand même ça. Ça valait ça. Alors, j'ai acheté mes pites et je les ai à la maison. C'est pas une relique, mais c'est précieux. Ça fait tellement penser à cette veuve pauvre, pas pauvre veuve, qui a tout donné, ces deux pites. Et comme je suis un peu curieux, j'ai fait des recherches. Vous savez à quoi ça correspond, les deux pites? Ça correspond à 3 euros. Et 3 euros, ça correspond, je crois, à 1 kilo de pain. Et autrement dit, elle a mis son dernier pain. Elle l'a mis entièrement. Tout donné, et le Seigneur le souligne, tout ce qu'elle avait, toute sa subsistance, tout ce qu'il lui fallait pour subsister, l'a tout mis. Alors on dit, et la suite? Après, elle est morte pauvre. Non, je ne sais pas la suite, mais quand le Seigneur... Ah non, 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 elle n'est pas morte de faim, celle-là. Elle n'est pas morte de faim. Donc, nous avons des cadeaux à profusion, des dons de grâce, des services et des opérations. Je vais prendre une petite image sans trop faire de digression, parce que après, ce sera trop long, mais pour vous expliquer. Un don de grâce, par exemple, c'est une qualification, et je vais prendre une image dans les choses de la terre. Supposons que vous soyez professeur d'anglais. Vous avez une qualification pour enseigner l'anglais. Le service, c'est le poste. Vous avez un poste au lycée de Tonnens, en supposant qu'il y en ait un. Vous avez un poste. Et les opérations, bien, c'est la mise en application de votre don. Si vous n'allez pas au lycée, ça ne marche pas, aucun enseignement. Si vous allez au lycée et si vous apprenez le russe aux gens, ce n'est pas bon. Mais si par contre, vous avez votre don, vous avez votre poste et vous enseignez, alors là, il y a du résultat. Voyez ? Donc, il faut, tout cela est lié. Nous avons à connaître ce qu'est notre don de grâce au passage. Ce sont des charismes. Alors là, il y a parfois aussi, dans des églises, des chrétiens qui sont tout complexés parce que les charismes, c'est que pour les charismatiques. Ah bon, je ne savais pas, mais c'est comme ça. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Tous les chrétiens sont charismatiques. Tous, sans aucune exception. Et il n'y a aucune exception parce que, je vous cite, c'est Romains 6, 23, je crois, le salaire du péché, c'est la mort, mais, et je vous fais exprès de traduire, mais le charisme de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais le don de grâce de Dieu, en grec, c'est le charisme. Le charisme de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus, voyez. Ne soyez plus complexés, vous êtes tous charismatiques. Des cadeaux à profusion. Paul dira, toutes choses sont à vous. Et une sœur qui a passé du temps en camp de concentration a dit, Dieu nous a tout donné. Et c'est vrai que Dieu nous a tout donné. Et elle a ajouté, mais nous n'avons pas tout pris. C'est Corrie ten Boom. Et là, nous devons réfléchir. Dieu nous a tout donné, mais nous n'avons pas tout pris. Alors nous avons des ressources, et entre autres la prière, demandez et il vous sera donné. Dans le psaume 122, nous trouvons cette expression « demandez la paix de Jérusalem » et nous pouvons en faire une application à l'Église. Demandez la paix de l'Église. Que l'Église soit en paix. Pas une paix à tout prix, mais une paix selon Dieu. Parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a du respect, parce qu'il y a du service. 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Éphésiens 6, 18, priant par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, par l'Esprit. Et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints. Quel programme dans notre vie d'Église et dans notre vie personnelle. Et maintenant, j'espère que vous n'oublierez pas l'image que je vais vous donner. Vous allez oublier probablement beaucoup de choses que je vous ai dites. Mais là, n'oubliez pas cette image, voyez. J'ai trouvé une image qui synthétise, me semble-t-il, ce qu'est l'Église. Alors, regardez bien, c'était mieux quand je donnais les conférences à Lausanne. L'Église, le couteau suisse de Dieu. C'est sûr, ce n'est pas marqué dans la Bible, mais enfin, l'Église, le couteau suisse de Dieu. J'ai un couteau suisse. Et mon fils aussi, d'ailleurs, toute la famille a un couteau suisse, parce que ça ne vous résout pas tous les problèmes, un couteau suisse. Mais ça vous résout 9 sur 10, ça fait déjà pas mal. Pas dans tous les domaines de la vie, on le comprend. Mais quand même, vous ne pouvez pas savoir ce qu'un couteau suisse peut résoudre comme un problème. Eh bien, l'Église est le couteau suisse de Dieu. C'est-à-dire qu'avec cela, nous pouvons faire beaucoup de choses. Il y a un potentiel dans l'Église. Et vous êtes, je ne sais pas si je le mets, oui, dans la diapo d'après. La richesse de l'Église, dans un sens, c'est l'Église. La richesse de l'Église, c'est vous. C'est vous. Paul aux Corinthiens, vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. Paul nous dirait aujourd'hui, vous êtes le couteau suisse de Dieu et ses diverses lames, chacun en particulier. Vous avez donc, frères et sœurs, le pain, voyez, et le couteau. À vous de faire de bons repas, à vous de régler les problèmes dans l'assemblée. Mais vous êtes placé en ce moment devant un choix. Et l'exemple d'Israël peut nous apporter quelque chose. Nous sommes à la fin de la traversée du désert. Le peuple se trouve aux portes du pays promis. Le pays a été reconnu. Et il y a eu deux témoignages. Les uns dirent, Nombre 14, 7, c'est un très bon pays. D'autres dirent, Nombre 13, 33, c'est un pays qui dévore ses habitants. Deux possibilités, mais un seul bon choix. Les uns disent « montons hardiment et prenons possession » et les autres disent « établissons-nous un chef et retournons en Égypte ». Vous avez une responsabilité, j'ai une responsabilité personnelle. Je recite maintenant le verset cité tout à l'heure « regarde, Israël, j'ai mis devant toi » la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta semence, en aimant l'Éternel ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui, car c'est là ta vie. Alors, qui bâtit quoi? On retourne dans le prophète Agé. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de la maison de l'Éternel pour la bâtir. Et la parole de l'Éternel vint en disant, « Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées, tandis que cette maison est dévastée ? Et maintenant, ainsi dit l'Éternel des armées, considérez bien vos voies. » Ce que l'Esprit de Dieu disait jadis au peuple d'Israël, il nous le dit aujourd'hui. Vous dites, « Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette assemblée ? Ce n'est pas le temps, c'est la fin des temps. » Et l'Esprit de Dieu nous dit, Que faites-vous alors à construire vos propres maisons? Que faites-vous à faire vos études? Que faites-vous à donner tant de temps pour le monde si ce n'est pas le temps? Considérez bien vos voies. Alors, êtes-vous une des trois premières personnes qui acceptent de porter la charge de l'Assemblée, ou êtes-vous semblable au quatrième petit malin qui suit sans aucun doute, mais qui ne se fatigue pas beaucoup? C'est Dieu qui doit travailler dans votre cœur, ce n'est pas moi, mais l'interrogation demeure. Il me reste à traiter un point qui est le dernier, c'est l'espérance de l'Église. Y a-t-il un espoir pour l'Église du 21e siècle? Mais je peux vous dire qu'il y a non seulement un espoir, mais une espérance qualifiée, on en parlait tout à l'heure, de bonne espérance, par grâce. 2 Thessaloniciens 2,16. Or notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et notre Dieu et Père, qui nous a aimés, nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par grâce, etc. Une bonne espérance par grâce. Il y a en acte 13, verset 36, ce verset. David, dans sa propre génération, a servi au conseil de Dieu. La question, c'est, et moi? Et moi? Que je sois jeune ou vieux, homme ou femme, est-ce que j'ai servi, est-ce que je sers au conseil de Dieu dans ma génération? Je ne suis pas un frère du 19e siècle. Je ne suis pas un frère du 3e siècle. Je suis un siècle du 21e siècle. Et Dieu me demande, comme il vous demande, d'être un témoin au 21e siècle. Nous n'avons pas choisi le siècle dans lequel nous vivons, mais nous devons être témoins de Dieu, servir au conseil de Dieu dans notre propre génération. Aujourd'hui, l'Église se présente un peu comme un chantier. Mais certains, par la foi, voient déjà la maison terminée. Ayant eu accès par la Bible au plan de Dieu pour l'Église, ils croient que c'est possible et travaillent avec ardeur à sa réalisation. Ils voient l'Église comme Christ la voit. Et nous connaissons ce passage d'Hébreu 11. Ils l'ont vu de loin et ils l'ont salué. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie meilleure, la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. En effet, il leur a préparé une cité. Connais-tu cette cité, dit un cantique, la cité céleste? Dans ses murs, tout est clarté, plus d'ombre funeste. Pèlerins et voyageurs, ici-bas dans les douleurs, toujours ce trésor nous reste, la cité céleste. Je ne vis pas de temple en elle, car le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant et l'Agneau en sont le temple, et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée, et l'Agneau est sa lampe. Aujourd'hui, l'Église a des taches, elle a des rides, elle a des imperfections. Mais la foi est plus perspicace que la vue. Elle voit ce que les yeux ne voient pas. Elle s'empare des promesses et les tient pour vraies. Demain, j'ai vu Jésus va se présenter l'Église à lui-même. Préparée comme une épouse ornée pour son mari. Il va transformer le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire. En un instant, en un clin d'œil, il se présentera son épouse à lui-même, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il jouira alors du travail de son âme et son amour divin en sera satisfait. Jésus a dit, je viens bientôt. L'Église répond, Amen, viens, Seigneur Jésus. Nous t'attendons, dit un cantique, Seigneur, plus que les sentinelles en veillant dans la nuit n'attendent le matin. Levé au plus profond de tous les cœurs fidèles, déjà l'étoile luit de son éclat divin. Fils de l'homme exalté que les hommes rejettent, Jésus, bien plus que nous, ton âme attend ce jour. Agneau, céleste époux dont les noces s'apprêtent, vers toi montent nos voeux formés par ton amour. Ton Église, Seigneur, dès à présent t'adore, mais languit de te voir et d'être auprès de toi. En son cœur réveillé, l'Esprit Saint fait éclore l'hymne de l'espérance et l'appel de la foi. Viens ravir dans le ciel le trésor que recèle un monde qui soupire et déjà t'appartient, et mets à ta couronne où leur pure étincelle la perle dont l'éclat reflètera le tien. Il va venir lui-même pour nous introduire dans ce que le Seigneur a appelé la maison du Père, et jouit comme une voix d'une foule nombreuse, et comme une voix de grandes eaux, et comme une voix de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et tressaillons de joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée, et il lui a été donné d'être vêtue de fin lin, éclatante et pure, car le fin lin, ce sont les justices des saints. » Et il me dit « Écris, bienheureux, ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau. » Et il me dit, ce sont ici les véritables paroles de Dieu. Un cantique dit encore, ils sont ouverts enfin les parvis de la gloire où les saints triomphants au cri de la victoire entrent avec Jésus, leur époux et leur roi. Ils tombèrent sur leur face devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, et ils chantent un cantique nouveau. Tu es digne, car tu as été immolé. Le temps du service envers l'Église sera jamais terminé, la foi aura fait place définitivement à la vue. Un de nos cantiques dit « Gloire à celui qui nous aime, à lui force et majesté, à Jésus, gloire suprême, jusque dans l'éternité. Église, je t'aime, parce que tu es belle dans le conseil de Dieu. Église, je t'aime, bien que tu sois un peu boiteuse. Église, je t'aime. Non, je ne veux pas t'abandonner. Église, je t'aime parce que Christ t'aime. »